50 degrés, très bien. Changement climatique, température en ville, ok.
50 degrés, eh ben, c'est ce qui nous attend.
La ville va s'adapter, je crois que la mairie...
On n'a pas le choix.
Les policiers
de toute façon, l'homme est fait pour s'adapter et on est en train de mettre plein de choses en place justement pour pallier à ça.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être une fois de plus au rendez-vous du Gai Savoir. Zoom Zoom Zen, chaque après-midi, deux heures pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses concepts. Et aujourd'hui, avant de nous pencher sur un chiffre terrifiant, 50 degrés, qui n'est pas la température enregistrée dans la chambre de Manon Mariani, quand, après avoir fait un selfie coquin pour vérifier son identité sur X-Hamster, elle accède à sa catégorie préférée, Kinky Daddy. Mais bien la température qu'il pourrait faire à Paris dans la deuxième moitié du 21e siècle. Avant cela donc, un mot peut-être sur le moral général de l'équipe, à J+1 de la découverte de notre nouveau sponsor. On était tous si excités à l'idée de vous retrouver pour une nouvelle saison, la quatrième. Nous, historiquement si timides, si habités par le doute, est-ce qu'on fait une bonne émission? Est-ce qu'on est à la hauteur de notre mission de service public? On avait enfin, en cette rentrée, acquis une certaine confiance entre vos messages positifs et les audiences. On se disait qu'on était légitime à notre place. Et puis soudain, sans que personne au sein de France Inter n'ait pensé à nous prévenir, on a découvert, en direct, hein, comme vous, notre nouveau partenariat. Oh, peut-être que ça sera avec Dior, s'exclamait Manon. Ou alors avec Jacquemus, trépignait Quentin. Eh ben non, ça sera avec les déboucheurs. Maintenant que dans la cour d'école, les enfants jettent des pierres à ma fille en lui disant « Ton papa, il débouche des chiottes
!»
Désormais que tout semble possible en termes de partenariat, l'équipe vit dans la crainte. Quel sera notre prochain sponsor? Retrouvez Zoom Zoom Zen avec...
Myco Hydralin sans ordonnance, efficace en une seule prise. Myco Hydralin, libérez-vous de la mycose vaginale.
Zoom Zoom Zen, l'homme sandwich de Radio France, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Marion Hochely.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes directrice générale du bailleur social Séquence. Vous gérez 100 000 logements en Ile-de-France qui correspond à 250 000 locataires et vous faites partie du collectif Nos Villes à 50 degrés qui regroupe de nombreux acteurs de l'urbanisme dont l'objectif est d'accélérer l'adaptation aux vagues de chaleur du bâti existant et des constructions neuves à l'échelle immobilière et territoriale. On s'attend donc désormais à vivre sous 50 degrés en ville. Comment ça va se passer? Comment s'adapter? On va en parler ensemble puisque vous y réfléchissez déjà. Juste le temps de vous présenter ceux qui, eux, ne réfléchissent à rien. Ils vivent au jour le jour, cramant le kérosène sans aucun remords. Chaque après-midi, ils débouchent le Gai Savoir. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
Marion Hochely, si vous vous préparez à adapter vos bâtiments à des températures dépassant les 50 degrés, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est devenu inéluctable. Les études scientifiques sont formelles. On y va tout droit, peut-être pas 2050, mais... deuxième moitié du 21e.
Tout à fait, on y est déjà, donc on observe déjà des pics à Paris sous les toits, notamment à 60 degrés. Il y a notamment un rapport qui a été fait, qui s'appelle Paris à 50 degrés en 2023, sur lequel on s'est appuyé notamment pour créer ce collectif et qui montre effectivement que les périodes de canicule à Paris vont s'accentuer. Dans les années 2010, on avait 14 jours de canicule par an et d'ici les 2050, on passera à plus de 30 jours. Donc on voit qu'on y arrive inéluctablement. Et c'est vrai que pour un bailleur comme nous, un bailleur social qui logeant des personnes essentiellement modestes, ces problèmes sont encore plus accentués. En plus, on a la particularité de gérer un patrimoine dans la durée. Donc on a évidemment une responsabilité vis-à-vis de nos locataires pour trouver des solutions.
Vous allez enlever tous les toits en zinc ?
Alors, on a assez peu de toits en zinc. Après, il y a d'autres leviers sur lesquels on peut agir. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la construction, malheureusement, on a un petit peu de retard sur le sujet. On s'est plutôt concentré sur des questions de chauffage ou autres, mais assez peu sur le confort d'été. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de se mettre avec d'autres acteurs et de créer ce collectif, parce qu'on s'est dit qu'ensemble, on trouverait plus facilement des solutions.
50 degrés, moi, je trouve ça pratique. On pourra cuire les merguez directement sur le capot de la bagnole. Telle fut la contribution à haute valeur ajoutée de Cyril Lacarrière, notre rédac-chef climato-sceptique, lors de notre conférence de rédaction. Heureusement, Cyril, depuis, vous êtes renseigné. Vous avez vu que des preuves scientifiques avaient été opposées aux critiques de votre ami Claude Allègre. Et vous êtes en mesure de nous raconter 50 degrés en ville en 2050. D'où ça sort?
Imaginez une ville où sortir à midi est devenu impossible. Le bitume colle, ils font même par endroits. Les climatiseurs s'emballent, les parcs sont vides, les oiseaux disparaissent. Et le thermomètre affiche plus de 50 degrés. Ces scènes, vous pensiez que c'était de la science? science-fiction, c'est maintenant un horizon pour l'humanité. Cette idée, on commence à en parler dans les années 2010, c'est le moment où certaines villes d'Inde ou du Golfe dépassent régulièrement les 48-49 degrés. En 2015, une canicule frappe l'Inde, elle tue plus de 3000 personnes. Le 24 mai de cette année-là, on observe un pic à 48 degrés dans la ville de Kamam, population pas loin de 200 000 habitants. L'idée d'une ville qui ne serait tout simplement plus habitable entre alors dans le débat public.
Mais qui en parle à ce moment-là ?
Le GIEC, évidemment, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Mais aussi des chercheurs, en voici deux exemples. Matthew Huber, spécialiste du climat à l'université de Purdue, et Camilo Mora à Hawaï, parlent du risque d'un seuil létal. Un seuil qui correspond au moment où la chaleur et l'humidité combinées empêchent le corps humain de se refroidir. La pop culture aussi s'empare de cette perspective. Dans Mad Max Fury Road, la ville n'existe plus que comme un mirage brûlant. Dans Blade Runner 2049, les mégapoles suffoquent sous une chaleur étouffante. Même dans les jeux vidéo de SimCity à Cyberpunk 2077, on imagine des cités où le climat détraqué devient une menace quotidienne. À l'heure d'où ça sort la ville à 50 degrés, et vient de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Marion Rochely. Cyril nous rappelait que cette problématique des 50 degrés en ville, elle est évoquée depuis les années 2010 maintenant, on est en 2025, ça fait un bout de temps. On a mis du temps avant de s'en emparer, avant d'essayer vraiment de réagir. On n'y croyait pas peut-être.
Tout à fait. Alors, on n'y croyait pas, ou peut-être qu'on avait aussi d'autres priorités. Donc, je l'évoquais, on s'est beaucoup concentré sur des questions de décarbonation, de chauffage, de performance énergétique, de décarbonation des matériaux.
Mais c'était important aussi.
C'était important aussi. On continue à le faire, d'ailleurs, parce qu'on n'est pas du tout au bout de nos efforts. Mais c'est vrai que les questions, alors peut-être plus particulièrement dans le Nord, parce que c'est évidemment dans des zones plus vers le Sud, on a commencé à s'y intéresser plus tôt. Alors, Séquence fait aussi partie d'un groupe, Action Logement, qui a aussi des filiales en Outre-mer. Mmh. Et par exemple, notre filiale à La Réunion, elle est beaucoup plus avancée sur ces sujets-là, parce que c'est un sujet évidemment beaucoup plus crucial pour les habitants. Mais c'est vrai qu'en Ile-de-France, on a sans doute du retard sur le sujet.
Vous parlez de retard, mais du coup, il y a d'autres pays, par exemple, qui sont en avance là-dessus, sur lesquels vous pouvez prendre exemple.
Alors, il y a sans doute d'autres pays, enfin, par définition, voilà, les pays où les températures sont plus chaudes, il y a sans doute d'autres choses qui ont été testées. Bon, c'est vrai que je parlais de La Réunion, oui. Par exemple, il y a des choses qui sont beaucoup plus systématisées. Par exemple, quand tu as des constructions de logements, réfléchir à l'orientation, à la ventilation, à la double orientation. Donc ça, c'est des choses qui sont plus naturelles. Alors après, on est en Ile-de-France, dans un espace assez contraint. Nous, on travaille beaucoup sur de la réhabilitation, et la réhabilitation, c'est forcément un peu plus contraint. On peut pas forcément tout faire.
D'après la revue scientifique de Lancet, revue qui fait référence, Paris serait même la ville d'Europe la plus mortelle en cas de passage aux 50 degrés. Pourquoi ça ?
Alors c'est possible, je pense qu'il y a une petite spécificité parisienne. Alors nous, on n'est pas que à Paris, on est aussi beaucoup dans la région Île-de-France. Bah, déjà, Paris, c'est une ville très dense. Il y a effectivement, vous parliez des toits en zinc, il y a cette spécificité à Paris architecturale. On a aussi, quand on est un bailleur social, c'est aussi une contrainte, les monuments historiques qui regardent aussi certains paramètres pour réaliser des réhabilitations qui sont relativement contraignantes. Par exemple, voilà, si je peux citer un exemple sur des choses qui fonctionnent, par exemple ce qu'on appelle les cool roofs, c'est-à-dire de...
Les quoi ?
Les cool roofs, donc c'est de mettre cool de la roof. Peinture blanche sur les toitures pour faire baisser la température.
En face de chez moi. Mais c'est pas de la peinture qu'ils ont mis, ils ont mis des bâches blanches.
Alors peut-être que ça fonctionne aussi avec des bâches, nous. On a plutôt un système qui fonctionne avec de la peinture, et ça, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on peut déployer de manière massive à Paris.
Mais ça fonctionne.
Ça fonctionne.
Oui, c'est du blanc.
Tout à fait.
Cause des problématiques des monuments historiques.
Voilà.
Mais là, il va se poser une vraie question qui est vraiment intéressante. C'est-à-dire qu'effectivement, on est une très belle ville, mais pour ne pas qu'elle devienne une ville musée, il va peut-être falloir corriger les bâtiments, même si ça fait rouspéter les architectes des bâtiments nationaux, mais pour simplement que les gens puissent vivre et respirer.
Tout à fait. Ben, nous, ça fait partie de notre travail au quotidien, d'essayer de trouver un moyen terme entre les enjeux patrimoniaux et le confort des locataires.
Comment vivre par 50 degrés ? Que deviendrait Lourdes ? Se demande Pierre Courade. Les cierges fondraient-ils ? Une question qui n'a jamais effleuré l'abbé Chibrard, qui enlève sa soutane dès que la température dépasse les 16 degrés dans le confessionnal.
Oh,
y aura-t-il encore des vignes pour que Manon puisse s'étancher sa soif ? Cyril Lacarrière pourra-t-il encore porter ses fameuses chemises blanc du Nil en disco-club sans être aussi trempé que Manuel Valls à l'université d'été du PS en 2015 ? Pour ne pas s'évanouir durant ses micro-trottoirs, Quentin devra-t-il porter une casquette ventilateur, ce qui marquera la fin de son couple, sa compagne qui bosse dans la mode ne pouvant tolérer ça ? Oui, bien des questions se posent. Alors pour se rassurer un peu, je vous propose d'aller voir là où c'est pire. Avec un quiz consacré à des phénomènes naturels encore plus extrêmes que la fois où Cyril avait flingué l'atmosphère de l'open space après la journée Chili con carne fiesta à la Cantoche.
C'était une catastrophe.
Jouons
c'était horrible.
Au Zoom Zoom Test, les amis. Zoom Zoom Test dont la première question nous entraîne...
Cyril me dit que j'ai moins un.
En 1815, Napoléon vient d'abdiquer, la triste bataille de Waterloo se profile. Gonzague la Carrière, l'ancêtre de Cyril, préfère s'auto-empaler avec sa lance que de se soumettre aux Anglois. Et pour nous. Oui, on a l'archive, on a l'archive. Grâce à Samia Jedi. Et pour ne rien arranger, en Indonésie, le volcan Tambora entre en éruption. Éruption si violente qu'elle décapite la tête du dit volcan pour créer un cratère de 6 km de diamètre. Mais il y a pire. L'éruption fut suivie d'une année sans été et de 3 hivers volcaniques. D'une famine qui fit plus de 100 000 morts sur 3 continents. Ou d'une mutation génétique qui explique que l'orang-outan, aujourd'hui, est roux.
Ah, les trois.
Les trois.
J'essaye.
Vous êtes allé voir Nénette au Jardin des Plantes. Et certainement, oui, vous avez lu dans les critos, ils expliquent cette histoire. Pourquoi l'orang-outan est roux? Vous vous souvenez de ça?
Oui.
C'est une mauvaise réponse de Quentin Lévique. Bonne réponse de Manon. Réponse A et B. Trois années successives.
Mais elle n'a pas du tout dit ça. A et B, c'est ce que j'ai dit.
Mais non, pas du tout.
Alors, pas de victoire. Pas de victoire. Pas de point. Pas de point pour personne. Trois années successives sans été, comme en Bretagne. En cause, les poussières volcaniques dégagées par l'éruption qui sont venues obstruer l'astre lumineux, et je ne parle pas de Cyril, mais bien du soleil. De la neige en plein été en Italie, la photosynthèse complètement chamboulé, résultat une famine et plus de 100 000 morts à la clé, sans compter Gonzague la Carrière qui pendouillait tristement au bout de sa lance, devançant ainsi son arrière-arrière-petit-fils en termes d'infiltration. Mais attention, car nous changeons totalement de décor, direction Dallol. Vous voyez le Cap-Vert? Eh bien, imaginez encore pire, c'est Dallol, dira Pierre Courade, notre rédacteur en chef adjoint, Globetrotter. Selon vous, Manon Quentin, pourquoi
Globetrotter.
Ça marche aussi.
Oui, ça marche aussi.
Globetrotter aussi, ça c'est vrai. Mais on ne peut pas s'épancher là-dessus.
Manon Quentin, il parle beaucoup de langues, c'est pour ça.
Pourquoi Pierre est-il si critique envers Dallol? Parce que Pierre est un être intrinsèquement mauvais qui ne peut pas s'empêcher de tout critiquer, même la dernière édition du Guide Pudelot, où c'est l'endroit le plus chaud de la planète, Dallol, avec une température moyenne de 34,6 degrés. Ou Dallol, c'est là qu'on recense les plus violentes tempêtes de grêle avec des grêlons pouvant atteindre la taille de la mauvaise foi de Pierre Courade.
A et C.
A et C pour être des très bonnes réponses. Ah, j'hésite à... Mais malheureusement, c'est là. Vous avez dit quoi quand
A et B.
A et B. Excellente réponse, effectivement. Puisque
des grêlons,
là, évidemment.
Du poids de...
Ça
c'était du poids, Pierre Courade.
Avec ce qu'il a pris cet été, ça m'étonnerait.
Ouais, c'est vrai.
Aux portes, c'est mesquin. J'ai envie de vous en dire
méchant.
Un point.
C'est méchant, ah ouais.
Aux
on critique pas le physique.
Car vous savez, la méchanceté ne paye pas.
Ah bon.
Un point en moins. Aux portes du désert éthiopien,
dommage.
Dans les crins de geyser, là où le farnienne devient aventure, Dallol. D'ailleurs, on n'y vit pas. Impossible. Avec une température moyenne de 35 degrés et des pointes à plus de 50. C'est plus un sauna à ciel ouvert qu'autre chose, mais là encore, pas un sauna comme Pierre les affectionne du côté du boulevard Rochechouart. Mais il y a pourtant pire qu'être bloqué à Dallol, être coincé dans un pyro-cumulonimbus, qui est, comme vous le savez parce que vous suivez Serge Zaka sur Instagram,
un chapeau
comme un cumulonimbus, comme un cumulonimbus, mais en pire de son nom, un nuage de pluie brûlante ou un nuage créé par un méga-feu qui génère sa propre météo.
Ah,
c'est... J'ai pas écouté parce qu'on parle
passé,
en régie.
Il y a passé. C'est
ah bon
A ou B.
Ah bah B alors.
Ah bah si, il y a la réponse.
Bah c'est, bah merci.
C'est une bonne réponse de Manon.
Non, mais...
Effectivement, c'est ça.
Il essaye de m'arnaquer.
Un nuage créé par un méga-feu qui génère sa propre météo, un peu de Ludovic Bourse pour rafraîchir l'atmosphère, parce que le pyro-cumulonimbus, c'est ce nuage formé par les méga-feux qui peut persister pendant plusieurs mois en occultant la lumière du soleil et donc rafraîchir le climat, comme dans le cas de l'éruption du Tambora évoqué dans la première question. Vous n'avez pas oublié évidemment Quentin. Mais
oui,
notre voyage au Gai Savoiristan n'est pas tout à fait terminé. Pour vous départager, un petit vrai-faux des familles. Attention, top. Vrai ou faux, un épisode Cévenol est une délocalisation d'un si grand soleil à Saint-Jean-du-Gard.
Faux.
Faux, évidemment, c'était pour zéro point. Mais c'est quoi un épisode Cévenol? Vous savez ce que c'est un épisode Cévenol?
Non, mais il y a
on
des propositions.
Tout le temps. Il n'y a pas de proposition, je vous le demande. Là. Je
fais bah c'est une canicule, c'est une canicule, un épisode.
Ah, je crois que notre invité Marion sait.
Moi, je suis originaire de Montpellier, c'est quand on a un gros orage avec beaucoup de ruissellement.
Des fortes pluies générées par de l'air humide venant de la Méditerranée, c'est une bonne réponse et c'est 12 points qui sont attribués à notre invité.
Ah oui.
Parce que c'était une question à 12 points, je ne vous l'avais pas dit. Vrai ou faux, l'échelle de Scoville? L'échelle de Scoville mesure l'intensité des cyclones.
Mais non, c'est le.
Non, c'est faux.
C'est le piment.
Oui, exactement.
Bien joué, Quentin. Vous êtes contenté
J'ai dit faux, mais parce qu'on regarde Hot Ones, donc on le sait.
L'échelle de Saffir-Simpson mesure les écarts de température au sein d'une même journée.
Vrai. Pardon.
Faux.
C'est l'échelle qui mesure l'intensité des cyclones, il faut suivre.
Ah, pardon.
Vrai ou faux, il existe une échelle qui mesure la hauteur des vagues.
Vrai.
Faux.
Vrai, c'est l'échelle de Douglas, même si Pierre estime qu'elle est mal faite. Vrai ou faux, dans la vallée de la mort, les pierres se déplacent toutes seules à cause de la météo.
Vrai.
Ah vrai, oui, ça c'est vrai, ça.
Essayez de réfléchir.
Si c'est vrai.
Mais si c'est vrai, mais parce que...
C'est une bonne réponse de Manon Marigny, effectivement.
Il n'y a pas de vent.
Sous l'effet de la glace et du vent.
Bah, écoutez,
beaucoup de bonnes réponses pour Manon Marigny.
Mais,
une seule personne a marqué 12 points dans ce quiz, c'est notre invité. Victoire de Marion Hochely, bravo.
Bravo,
les applaudissements virtuels du public. Après les chaleurs qui vont nous faire fuir les villes, le phénomène politique de l'été, non pas François Bayrou, bizarrement, mais Patrick Sébastien, oui, l'interprète de Patoche Baloche, pèse maintenant sur le game politique, à suivre également un retour en 2003 avec Dominique de Villepin pour son discours à l'ONU pour dire non à la guerre en Irak. Ce programme chatoyant, c'est après Giorgio, vendredi 13 sur France Inter.
Des gosses maudits qu'on pas passé le bac, bousillés par le chi, toute cette saleté de rap. Les mains sales parce que ça paye up. Rester chez soi, attendre que les choses se passent. Ou de gratter des pièces devant un hall de gare. À la base, je voulais de leur un Porsche et des gens t'en alu. Maintenant, c'est seulement pour nos droits qu'on descend dans la rue. Faut faire des choix, j'en ai fait, y'a des liens que j'ai coupés. Malheureusement, éternellement, l'équipe sera dessoudée. Sur les photos, on sera plus jamais au complet. C'est pas comme à mes concerts, tu sais ce qu'on dit, pas le temps pour les regrets. Putain, mon stylo pleure et mes yeux sont secs. J'ai laissé mes larmes dans des obsèques. De la foudre et de la haine dans mon cocktail. Y'a pas de coquelicot, j'suis Billy Elliott qui frappe comme Klitschko. J'suis Klitschko qui danse comme Nouriev. Petit j'étais tout sec, j'traînais dans la poussière. Aucune histoire particulière, malgré tout j'déjoue les statistiques. Parce que j'viens de là où on n'a pas d'amis flics ni à la balistique. C'est pas nos vies, c'est nos œuvres qui sont artistiques. Moi j'suis un artiste libre, vive la Palestine. On sera toujours du côté de ceux qui morflent. Des parents qui divorcent devant la juge. Du mauvais côté du box, les dés sont pipés. Me parle pas de méritocratie. Demain j'vais bronzer et j'souhaite bonne chance aux racistes.
Comment s'exprimer? J'ai la tête dans les braises. On pense qu'à s'extirper. Croiser la chance vendredi 13. Comment s'exprimer? J'ai la tête dans les braises, on pense qu'à s'extirper. Croiser la chanson.
Le rap en soir de sang, faut qu'on efface la concu, qu'on lui fasse l'amour. J'pense à hier encore comme Aznavour. J'rappais gainé comme pendant les tractions. Mon taf c'est ma passion. À chaque album j'mets un coup de gaz, une accélération. Ma vie sera plus jamais pareille avec l'absence de mon père. Mon héritage c'était son cœur, pas besoin d'un notaire. J'ai fait des choses que j'pensais jamais faire. Et si t'es pas déter, prépare-toi à l'échec. La vie c'est dur comme fer, froid comme un mort. Même dans les pays chauds, encore un extrait d'amertume. J'rappe comme si j'étais CDO. J'ai vu le numéro 1 et j'voulais passer devant. Comme si ça rendait plus heureux. Comme si t'oubliais vraiment avec Laurent Clément. J'en ai vu seul dans des histoires d'ensorcellement. Comprends pourquoi y a des gens qui nous manquent tellement avec l'âge. J'assiste à des naissances et des mariages. Me mets pas de pression sociale, mais pas le temps pour les dérapages. J'envie ceux qui connaissent bien la nature et le nom des oiseaux. Pourquoi nous, on rêve que d'argent et de paraître gosse beau. Même dans des marques fâches, pour sentir en démarquage. Connais tellement l'indifférence qu'on pourrait rapper en passe-passe. Nos destins c'est comme mettre all-in à Vegas. Noyé sous les dettes, combien de personnes attendent la marée basse. Si tu savais combien de choses me dépassent. Mais je crois en nous, je terminerai pas par dire hélas.
Comment s'exprimer? J'ai la tête dans les braises, on pense qu'à s'extirper. Croiser la chance vendredi 13, comment s'exprimer? J'ai la tête dans les braises, on pense qu'à s'extirper. Croiser la chance vendredi 13.
Inter, les meilleurs moments de Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et toute sa bande.
Si vous aimez la nouvelle chronique de Quentin Mosiman dans la matinale d'Inter, si vous êtes accro à l'émission de Mishka Assayas, alors vous êtes au bon endroit, ami méloman, puisqu'aujourd'hui on zoom sur... Patrick Sébastien, l'autre Vincent Delerme. Jérôme Fourquet, directeur du département opinion à l'IFOP, est avec nous pour décrypter ce phénomène Sébastien. Qu'est-ce qu'il représente? Est-ce qu'il peut être un jour candidat à l'élection présidentielle? Jérôme, est-ce que cette polémique au cœur de l'été, elle a fait ressurgir aussi le clivage entre l'élite et le peuple? Est-ce que, je mets des guillemets évidemment, est-ce qu'il y a une forme de, d'en haut, une forme de mépris de classe, un mépris culturel aussi peut-être, quand on parle de Patrick Sébastien?
Alors, oui.
Paris
Oui, bien évidemment. Alors, quand on regarde, on a parlé des chiffres tout à l'heure par catégorie socio-professionnelle. Quand on regarde aussi par lieu géographique, il est plus populaire dans les communes rurales qu'en région parisienne. Et donc, ça fait déjà longtemps qu'il a ressenti ce clivage et qu'il en joue. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, il me méprise, mais à travers moi, c'est vous qui le méprise. Et donc, nous allons assumer nos valeurs, nos codes, notre humour à nous. Et donc, la dernière polémique, là, elle est un peu spécifique, il faut bien le dire. Mais plus globalement, le bras de fer qu'il avait engagé avec certaines directions de chaînes de télévision, par exemple, en disant, voilà, moi, je fais un spectacle populaire et vous ne voulez plus que j'ai ma place. Et quelque part, vous êtes outé. Vous êtes boycotté comme moi je l'ai été. Donc il joue sur ce registre-là de manière plus ou moins consciente. Et il faut bien dire qu'une partie des élites rentre dans ce jeu. C'est-à-dire qu'en le stigmatisant, en se bouchant le nez, en écoutant ses chansons, eh bien ça renforce le stigmate et ça donne envie à toute une partie de la population d'adhérer à ce qu'il raconte et à ce qu'il véhicule.
Mais justement, vous parlez de figure populaire, on parle de figure populaire, mais qu'est-ce qu'on met derrière ce mot populaire ? J'ai un peu l'impression que c'est devenu un fourre-tout pour parler de cette fameuse France populaire.
Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à travers le cas de Patrick Sébastien, en fait, ça se décline, si je puis dire, dans tous les compartiments du jeu. C'est à la fois vos façons de vivre, vos codes culturels, votre humour, ce qui vous fait rire, ce qui vous fait pas rire, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait pas vibrer. Et donc, c'est tout ça, c'est très profond, qui se loge derrière cette question du fossé entre Paris et la France périphérique, le peuple et les élites, et cette France populaire qui ne se sent plus représentée dans un certain nombre de médias. Où est-ce que la France, cette France-là, cette France des campings, les France des férias, la France des troisièmes mi-temps, se retrouve représentée? Eh bien, elle a ses figures. Et Patrick Sébastien en fait partie.
Un coin de table. Une paire de lunettes, une paire, pas de lunettes, un peu de doigté, et le tour était joué. On avait l'impression de voir Gainsbourg revivre là, juste devant nous. Cet incroyable tour de passe-passe signé Patrick Sébastien, c'est Quentin lui qui nous l'a fait découvrir, lui pour qui le gai savoir ne doit se fermer à aucune pratique culturelle. Quentin, c'est donc une de vos idoles que vous êtes allé parler aux gens dans la rue.
Alors, pas mon idole, mais si. Je connais un peu sa carrière. Je suis sur le quai de la gare de Marseille et j'attends mon TER qui va m'emmener jusqu'à La Ciotat. Le temps de prendre un café à emporter, je fais la connaissance d'Inès et de sa copine qui ont repéré le micro France Inter et qui me demande de quoi on parle aujourd'hui dans l'émission.
Patrick Sébastien.
Le bon pas de Seb.
Le bon patoche.
Quel bilan on peut tirer de l'été de Patrick Sébastien ?
Buccal. Oral. Oral, finalement.
Voilà. Nous discutons oral, oui. Nous discutons de Patrick Sébastien, de son public. Est-ce qu'elle connaît ses chansons, par exemple ?
Ceux qui écoutent pas de Seb, c'est pas du tout notre génération. Ou alors, quand on écoute ça, c'est plus en soirée sous forme de blague. Je pense qu'il parle à une génération de boomers, quoi. Enfin, une génération assez âgée, je dirais. Même pas forcément la génération de mes parents. Je pense aussi que c'est une question de catégorie sociale.
Okay.
Parce que ça reste de la musique un peu paillarde, populaire, quoi. Bon, c'est marrant. Moi, personnellement, les fois où j'ai entendu Patrick Sébastien, c'est quand j'allais chez mes grands-parents et qu'il y avait la fête aux saucissons dans le village. Et qu'on passait tourner les serviettes ou « Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, quoi !»
Je réfléchis à ce que me dit Inès en arrivant au camping Une Étoile de la Sauge à La Ciotat, 110 emplacements à l'ombre des pins qui dégageaient cet après-midi-là une odeur magnifique du Sud-Est. Laetitia et Ludo voyagent dans leur camping-car. Je leur parle du thème qu'on aborde aujourd'hui.
Et en plus, je suis fan de Patrick Sébastien, donc...
Ok.
Eh oui, j'ai chanté quoi toute la semaine ?
Non, c'est bon, on laisse tomber.
C'est quoi ?
Qu'est-ce qu'on est serré dans cette boîte ? Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte ? Chante les sardines.
Mais ce qui est fou, c'est que c'est sur cette chanson en plus qu'il y a eu la polémique.
C'est vrai ?
Eh oui, c'est vrai. C'est la chanson du scandale et au rythme en plus. Je demande à Laetitia si elle trouve qu'on en fait un peu trop sur cette histoire.
Moi,
je trouve que ça va trop loin.
Oui, clairement.
C'est clair. Moi, j'espère bien voir un jour Patrick Sébastien dans un camping, clairement.
Il me parle de ce que représente pour eux Patrick Sébastien, ses émissions, de son ton aussi. Je leur demande si ça manque.
Bien sûr que ça manque. Dans les médias, on en voit de moins en moins. Parce que justement, une liberté d'expression et de parole qui est... qui manque et qu'on censure.
Pendant les vacances d'ailleurs, avec Ludo, on se disait qu'on devrait enlever la liberté sur les pièces, la liberté, égalité, fraternité, liberté.
Ouais, on n'est plus libre de rien.
Et lui incarne ça.
Oui, complètement.
Je le rappelle, ce qu'a dit Patrick Sébastien sur la scène de la foire au vin de Colmar quelques jours après la fameuse scène. Je pourrais être élu président de la République, dit-il. Et s'il se présentait, est-ce que Ludovic, par exemple, irait jusqu'à voter pour lui ?
Oui, clairement, oui.
Mettre le bulletin dans l'urne.
Ah oui, clairement. Oh bah, à côté des guignols qu'on a, bien sincèrement, il vaut peut-être mieux un gars comme ça, et plutôt que que tous les guignols qui nous représentent, hein, bien sincèrement.
Ouais. Je traverse l'allée centrale du camping et je fais la connaissance de Bruno et Sylvie qui viennent de Nancy. Bruno bricole un truc sur le camping-car quand il découvre...
Patrick Sébastien.
Vous en avez entendu parler ou pas?
Mais oui.
Ah, pour
au
la fellation.
Pour la fellation. C'est du trucage.
Ah, vous pensez que c'est une fausse fellation?
Mais oui, bien sûr.
Une air fellation.
Voilà, c'est faux. C'est faux, c'est parce qu'on veut descendre le bonhomme, parce qu'il a du charisme. Ça fait des années qu'il nuit, hein, et il est pas apprécié de tout le monde.
Mais quand même, est-ce que c'est normal d'aller jusqu'à mimer une fellation sur scène en pleine représentation?
Bah oui et non. Quand on est dans l'euphorie du spectacle, moi-même qui fais des spectacles le soir chez moi, des fois on est un peu euphorique, donc ça fait partie du spectacle. Mais les spectacles qu'on dit qu'il y avait des enfants, et puis que c'est pas lui qu'il faut réprimer, c'est la femme qui est montée sur la scène.
Alors ça, c'est revenu pas mal dans mes échanges. Ah, oui. Patrick Sébastien aurait en quelque sorte subi le moment. Je reviens avec Bruno sur une chose importante, et dont il a parlé, des enfants étaient dans la salle.
Bah moi, j'irai pas inculper, parce que déjà, l'histoire, on la connaît pas. Déjà, les gens qui vont au Cap d'Agde, c'est des culus. Donc déjà, faut arrêter de dire « elle a fait une fellation devant des gosses ». Les gosses, toute la journée, ils voient des bites sur la planche, et puis des culs de bonne femme. Mais c'est la vérité. Le Cap d'Agde, c'est reconnu pourquoi? Nudisme. Ils savent pourquoi ils y vont. Hein. Moi, tous mes potes qui vont au Cap d'Agde, ils savent que c'est pour faire du cul nu, et puis aller un petit peu dans les clubs d'échangistes. Hein. Hein. On l'a toujours emmerdé, Patrick Sébastien, comme on emmerde aujourd'hui Depardieu.
Oula, oula, non, on arrête tout, on arrête tout. Attendez, 16h27, 16h27 sur France Inter, on arrête, c'est parfaitement inadmissible, ça va trop loin, mais je continue quand même. Cette histoire de président de la République.
Eh, on avait connu ça avec Coluche, exactement.
Mais vous pourriez voter Patrick Sébastien?
Non. Lui, il s'en fout, parce que de toute façon, il irait pas jusqu'au bout. La présidentielle, comme Coluche, quand il a dit « je me présente président contre Mitterrand », c'était exactement pareil. C'est des number one du spectacle.
Non, c'est des gens qui nuisent.
Voilà.
Pourquoi?
Bah, parce qu'ils ont de la gueule.
Elle vient de tout résumer. Ils ont de la gueule.
Ils ont de la gueule, et derrière les blagues, ce que je comprends, c'est qu'il incarne quelque chose, Patrick Sébastien, la France des barbecues, des lotos, des campings, des balles populaires, une France qu'on appelle parfois beauf, qui coexiste avec une autre France, qui la méprise, une France qui serait prête à voter pour lui, tant parfois elle ne se sent plus représentée.
Même si l'impartialité doit demeurer évidemment la pierre angulaire du journalisme, Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, a déjà pris sa carte au parti La France Humaniste, créée juste avant l'été. Merci. Par notre invité Dominique de Villepin. Ensemble, on zoome sur 2003 et son fameux discours à l'ONU. Les Américains étaient prêts à tout pour se lancer dans cette guerre contre l'Irak. Pourquoi est-ce qu'il devait convaincre les membres de l'ONU? Il ne pouvait pas y aller tout seul. Ah, c'est peut-être une réflexion que je fais dans un monde où le multilatéralisme semble être un mot du passé, mais à l'époque, ça avait encore une valeur telle que les États-Unis voulaient convaincre.
Mais vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, on ne se poserait même plus la question. Ne pas y aller seul, d'abord pour essayer d'être légitime, c'est-à-dire d'avoir le soutien de la communauté internationale, ou en tout cas le soutien le plus large possible. Donc la bataille du Conseil de sécurité, cela a été une bataille saignante, à la fois en termes de si vous ne faites pas ceci, si vous ne votez pas avec nous, nous supprimons telle et telle subvention. Le Chili, par exemple, s'est vu menacé de voir rayer son accord de coopération avec les États-Unis.
Trump n'a pas inventé le chantage, alors?
Absolument pas. Il y a vraiment eu une tentative de subornation par les États-Unis d'un certain nombre de pays et de chantage inacceptable. Donc le combat était important pour eux en termes de légitimité. Le combat était aussi très important parce que c'était la condition posée par les Britanniques, par Tony Blair, pour y aller. Et ils nageaient dans le mensonge et ne savaient pas quoi inventer pour justifier de nouvelles raisons d'aller frapper l'Irak. Et là, ils se rendaient compte que la question de la légitimité démocratique, il ne fallait pas rigoler avec ça. Et donc, les Britanniques attachaient de l'importance à ce qu'il y ait un vote. Ils ont dû renoncer à ce vote parce que la France a ainsi mené la bataille qu'il l'aurait perdue. Et ça, c'est ce qui a créé le ressentiment des Américains vis-à-vis de nous. C'est pour ça qu'au lendemain de l'intervention, ils ont dit clairement, s'il y a un pays qu'il faut punir, c'est la France. La logique de l'exemple qu'on revoit avec Donald Trump, qui cherche à chaque fois à montrer le prix qu'il y aura à payer pour ceux qui résistent à la diplomatie américaine, eh bien, ça reste aujourd'hui encore le mode d'emploi.
À quel moment les Américains prennent le prétexte des armes de destruction massive?
Alors, c'est une idée très ancienne parce que les Nations Unies, dès les années 90, avaient été en charge de mener des inspections. Et puis, à un moment donné, les Irakiens avaient demandé le départ de ces inspections. Donc, il y avait déjà eu des étapes successives où, sur le terrain, les forces des Nations Unies avaient fait le travail, éliminé un certain nombre de menaces et de risques. Et donc, il s'agissait de poursuivre cela. Et pour eux, c'était en quelque sorte la preuve du risque que représentait l'Irak, d'où l'idée de dire il y a une menace bactériologique, il y a une menace chimique, il y a une menace nucléaire même, sachant que les trois États qui étaient sur la liste de l'axe du mal, l'Iran, risque nucléaire. C'est pour ça qu'en 2003, juste après l'intervention américaine, je prends l'initiative d'emmener les Britanniques et les Allemands en Iran pour engager ce qui sera le début de la négociation, et nous signerons le premier accord d'engagement des Iraniens, d'engagement à ne pas se lancer dans la construction d'un programme nucléaire. Et le troisième pays, c'est la Corée du Nord. Vous voyez bien que ce sont des États qui ont prospéré dans la marche vers la bombe.
Pardon, Dominique de Villepin, mais pour de simples citoyens comme nous, c'est un peu flou. Est-ce que cet argument des armes de destruction massive est un pur mensonge? C'est-à-dire que même les Américains savaient, de par leur service secret, qu'il n'y avait pas de preuves d'armes de destruction massive? Ou est-ce qu'ils ont eux-mêmes été trompés par des mauvaises informations? Ils ont amplifié quelque chose? Est-ce qu'on sait?
Alors, je différencierais dans l'administration américaine un certain nombre de personnalité et de situation. Je pense que Colin Powell a été très largement trompé par les gens du ministère de la Défense, les Donald Rumsfeld ou par Dick Cheney, et par les services de renseignement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'épisodes, et en particulier l'épisode du Niger, l'uranium du Niger, qui montre clairement qu'ils ont été jusqu'à la fabrication de fausses preuves pour justifier leur...
Il y a eu une séquence aussi assez incroyable, c'est Colin Powell qui agite un flacon d'anthrax au Conseil de sécurité. Il l'utilise comme preuve. Quand vous avez vu cette séquence, vous vous êtes dit quoi ?
Je dis c'est absurde. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de peine et de pitié pour Colin Powell dans cette situation-là, parce que je sais qu'il le porterait toute sa vie. Et c'est ce qui s'est passé. On s'est revus après. C'est le drame de sa vie.
Changement d'ambiance. Après Dominique de Villepin à l'ONU, le retour de Cyril Hanouna sur W9, vu par Marie de Breuer. On parlera aussi de la profession de photoreporter avec la photographe Sandra Caligaro, lauréate l'an dernier du festival Visa pour l'image. Quant à Manon Mariani, elle nous parlera du business des ruptures amoureuses sur les réseaux. Le temps de s'écouter Neil Young, Talking to the Trees. Today again, like I've never seen you. Waiting around for the world to change. Buying food at the farmer's market. Standing. Yesterday.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Je me tourne vers celle d'entre nous qui a passé la meilleure soirée, puisqu'elle a regardé tout beau, tout neuf, la nouvelle émission de Cyril Hanouna sur W9.
Allez, fousille-moi de la zic, là. Allez. Allez. Bon, allez, là. Ouais. Putain, ambiance est bizarre. Allez, Manon, contente, dandine, là. Je veux vous voir. Allez, souffle dans ta vapote, Manon, ça fait de la fumée, là. Ouais, 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 ouais. Oh, attends, ça, c'est de l'entertainment. Vous avez connu Marie Saint pas Marie cool, Marie détente, mais là vous allez reconnaître Marie rock'n'roll. Yeah. C'est ma toute nouvelle chronique, Marie désingle, paf. Je peux vous dire la carrière là, le petit journaliste média, il se chie dans le ben. Oh. Il a le calbut souillé, je le sens ici. Hein. Oh. Hey, Manon, Manon, tire sur mon doigt. Hey, tire pas trop, il y a un choc à pic qui va sortir. Oh. Bon. J'avais demandé, je ris à ma propre blague. J'avais demandé à la direction d'arriver au studio comme Baba hier, suspendu dans les airs. Je voulais même rajouter un effet angelot, voilà, avec des petites ailes dans le dos, une auréole et des cache-tétons en tranches de mozza. Mais ça n'a pas pu se faire, une histoire de poids réglementaire, je sais pas quoi. Je pense que c'est des histoires de budget, hein. On peut pas faire mes moves et t'élitreiller comme un facochère, Marie. Ok, non. D'accord, allez. Bon, bah, Baba is back, voilà, Hanouna sur W9, tout beau, tout neuf, avec des chroniqueurs tout neufs comme Nelson Montfort ou encore Laurent Fontaine, des Jones, tellement Jones que ça se perce les boutons en écoutant Skyrock. Pour cette première, les chroniqueurs ont défilé les uns après les autres sur un tapis rouge. Et alors, le moment de grâce pour moi a été Jérôme Anthony, hein, qui a fait une entrée sur une chanson de 98, Yakalelo. Et là, vous vous dites, oui Marie, mais comment ça se fait que tu sais qu'Yakalelo est une chanson sortie en 98? Eh bien, figurez-vous que j'avais la compile Hit 98 quand j'étais petite, voilà, hein, et c'est la raison pour laquelle je connais par cœur la tribu de Dana, hein, le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine d'ailleurs, il n'y a pas de blague tout à fait. Apparemment l'ARCOM va surveiller de très près, hein, le nouveau programme, et Cyril Hanouna l'a dit, il ne compte pas faire d'écart, donc mauvaise nouvelle, hein, pour les amateurs de lancer de nains au miel. C'est pas pour cette année, voilà, rangez vos petits pots de miel d'acacia et de châtaignier, hein, ou foutez-en sur vos tartoches. Bon, j'avoue personnellement j'ai jamais trop compris pourquoi cette émission choquait autant. Ils ont mis des nous dans le slip de Delormeau. Oui, bon, d'accord. Enfin, quand Benjamin Tranier m'a renversé du cassoulet dans la culotte, j'ai pas appelé Mediapart non plus. Et d'ailleurs, en parlant des nouilles dans le slip de Delormeau, Manon Mariani a mené l'enquête. Et 10 ans après, on a enfin les résultats. Les pâtes étaient al dente. Une cuisson parfaite. Perfecto. J'ai regardé 29 minutes, hein, de tout beau, tout neuf. Et alors, constat, Cyril Hanouna, mais il dit je t'aime avec une aisance, ce mec, quoi. Il dit je t'aime, je t'aime. Moi, ma mère, quand je lui dis je t'aime, c'est que vraiment, j'ai besoin d'oseille. Et Cyril, il est d'une générosité. Et là, je t'aime, Jean-Pierre Foucault. Je t'aime, Gérard Lanvin. T'étais super dans Camping. Je t'aime, Mathieu Delormeau. Enfin, je t'aime, Mathieu Delormeau, si tu ris à mes blagues. Hein. Sinon, je te mets en sang, je te le rappelle. Mais je t'aime. Et je pense qu'on devrait prendre exemple sur Hanouna, voilà, et plus se dire je t'aime. Alors, oui. Je t'aime, Manon, je t'aime, Quentin, je t'aime, Cyril, je t'aime, Mathieu, et je vous le dis parce que vraiment j'ai besoin d'oseille.
Merci beaucoup Marie pour ce rôle de composition, puisque chacun sait que vous n'avez pas besoin d'oseille. Bonjour Sandra Caligaro.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes Sandra, photoreporter. Votre travail porte essentiellement sur l'Afghanistan, pays dans lequel vous avez vécu une dizaine d'années. Vous avez photographié la vie quotidienne des Afghans avant et après le retour des talibans. Tout d'abord, Sandra, c'est quoi aujourd'hui une bonne photo ?
Pour moi, une bonne photo, c'est une photo qui transmet une émotion, qu'elle respecte la dignité du photographié. Après, bon, bah, y a forcément des histoires de cadrage, de composition, de lumière. Voilà.
Il y a quelque chose qui change la donne. Il n'y a pas le fait seulement que tout le monde aujourd'hui a un iPhone, peut prendre des photos partout dans le monde. Il y a aussi l'intrusion de l'IA. Les photos qui sont simplement manipulées, on fait dire aujourd'hui absolument ce qu'on veut à une photo. Et c'est assez bluffant, au point que beaucoup tombent dans le panneau. Est-ce que votre mission, est-ce que le métier de photoreporter change avec ça aussi, vous donne une responsabilité supplémentaire?
C'est bluffant et c'est même, c'est plus que bluffant, c'est inquiétant, effectivement, parce que c'est de plus en plus bon, j'ai envie de dire. J'ai pas de grande réponse là-dessus, comment on s'adapte, bah, on continue de faire des photos. Moi, j'ai envie de dire quand même que je me rappelle de cette citation qu'une de mes profs nous avait dit quand j'ai aussi fait des études de cinéma, de documentaire. Et elle nous disait, non mais... n'en rajoutez pas trop dans, enfin, quand vous filmez dans votre documentaire. La réalité dépasse souvent la fiction. Je crois que je me rattache à ça, en fait, moi, personnellement. Après, comment lutter contre l'IA aujourd'hui, je sais, j'ai pas de grande réponse, si ce n'est de continuer à affiner son regard et à être toujours essayer d'être dans le vrai.
Est-ce que le métier de photoreporter, il est plus dangereux aujourd'hui qu'il y a 10 ans, ou bien les dangers sont à peu près toujours les mêmes, quelles que soient les époques? On a l'impression qu'il y a beaucoup de zones en guerre aujourd'hui, des pays complètement infréquentables qui nous font peur de loin. Est-ce que pour vous, photoreporter, vous vous dites aujourd'hui, on a plus peur qu'avant, ou pas du tout, c'est votre job, quoi?
Moi, j'ai plus peur qu'avant, parce que quand on a 20 ans, 25 ans, on n'a pas l'expérience, et c'est très bien, et on pense que les incidents, les choses terribles, ça arrive qu'aux autres, enfin, que c'est pas pour nous.
Qu'on va passer entre les gouttes, quoi.
Qu'on va passer entre les gouttes, et puis au fur et à mesure des années, au fil du temps, on s'aperçoit, en fait, que ça touche nos collègues, nos amis, nos confrères, nos consoeurs. Et voilà, après, dans le monde, oui, je pense que le métier, il est, si ce n'est plus dangereux, il est complètement différent. En fait, les lois elles sont moins claires. Et ça, depuis qu'il y a des... c'est pas nouveau, les attentats, mais en fait... les attentats suicides, c'est que ouais. Ça arrive quand même, ça prévient pas, en fait, quand ça frappe. Les drones n'existaient pas il y a 20 ans.
Vous avez déjà eu peur, vous? Vous êtes déjà senti menacée?
Oui, oui, je me suis déjà sentie menacée. Après, je touche du bois, de la peau de singe. Je suis là, il m'est rien arrivé de grave. Mais bien sûr, en fait, même le risque zéro n'arrive pas. Et je suis pas la plus... celle qui va le plus, en fait, au devant, en fait, sur le front. Mais oui, bien sûr, j'ai déjà eu des peurs. Et pas forcément peur lors d'un attentat, ou peur d'avoir un bras arraché s'il y a une bombe ou une explosion. Peur aussi d'être kidnappé. Peur, et surtout peur qu'il arrive, et ça, je pense que c'est le plus terrible, peur qu'il arrive quelque chose de terrible à mes collaborateurs ou aux personnes que je photographie, et qu'après coup, elles aient des problèmes. Ça, c'est une peur vraiment, en fait, qui est pire que la peur de mourir, la peur d'être blessé.
De mettre quelqu'un en danger.
Exactement.
Quentin ?
Il y a deux clichés qui se répondent, je trouve, parmi vos photos prises en Afghanistan. Ce sont deux groupes d'amis au sommet d'une colline qui dominent une ville, avant le retour des talibans. Donc les garçons et les filles vêtus à l'occidental font des selfies, s'amusent. Et après le retour des talibans, seuls les jeunes garçons ont le droit de se retrouver dehors. Ces deux photos, je trouve, illustrent bien le choc qui a été aussi le retour de la morale religieuse en août 2021 en Afghanistan. Un contraste entre ces deux photos.
Oui, c'est étrange. Enfin, je suis contente que vous ayez vu le parallèle. Quand les talibans reviennent en août, le 15 août 2021, nous, pas que moi, enfin nous, journalistes ou médias occidentaux, on est sidérés. En fait, on a peur, très peur, et les Afghans aussi. Et c'est vrai, en fait, que j'ai envie de dire, à l'extérieur, en fait, l'enveloppe, elle n'a pas changé, parce que le pays est le même, parce que finalement, quand je vais en Afghanistan, les femmes, elles étaient voilées, elles sont toujours voilées, elles sont plus voilées. Les restaurants existent toujours, sauf que, en fait, c'est dans plein de petites choses, dans plein de petits symboles que ça change.
Manon, aujourd'hui dans votre veille sanitaire, vous nous parlez d'un nouveau business sur les réseaux qui a infiltré votre algorithme.
Je fais cette vidéo pour vous raconter ma première grosse rupture.
Je vais vous raconter ma rupture, pourquoi mon ex m'a quitté, j'ai écrit une lettre à mon ex pour guérir, ma rupture m'a fait du mal, etc, etc, etc. Voilà le genre de vidéo que je vois de plus en plus passer sur les réseaux, en particulier sur TikTok. Des personnes, en général des femmes, se mettent face caméra et parlent donc de ce qu'il s'est passé avec leurs anciens partenaires, des récits en général assez longs, certains en plusieurs parties. Il y a même des personnes qui vont jusqu'à se filmer tous les jours post-rupture comme une espèce de journal intime en ligne pour montrer leur peine. Et tout ça, ce n'est pas pour rien, car au-delà de l'aspect thérapeutique qui est vendu par ces TikTokers au cœur lourd, les ruptures, ça fait vendre. Sur la plateforme, le hashtag Breakup comptabilise plus de 81 milliards de vues.
Et quand même, d'où le fait que vous parliez de business.
Exactement. Ce moment si intime, parfois destructeur, est devenu une séquence qu'il faut mettre en scène sur les réseaux pour gagner des vues et des followers. S'il y a des larmes, une histoire de tromperie ou un mariage avorté, c'est encore mieux. Du drama, toujours du drama. Et puis, certains ont même trouvé des astuces pour en parler et surfer sur la tendance alors qu'ils ne traversent même pas de rupture eux-mêmes. C'est simple. Ils vont sur des forums Reddit, ils tapent rupture, ils tombent sur des histoires de personnes qui racontent ce qu'elles vivent, et donc ces personnes, des personnes qu'ils ne connaissent absolument pas, et ils reprennent leurs histoires pour les raconter sur TikTok, mot pour mot, et donc se les attribuer.
Donc tout ça est très très glauque même.
C'est glauque et pas très éthique surtout. Et puis, il y a ceux qui ont bien compris que les ruptures, ça fait vendre. Les influenceurs, toujours eux. Dernièrement, pas mal d'entre eux et d'entre elles se sont séparés et en ont parlé sur leurs réseaux. C'est le cas des candidates de télé-réalité, Ilona Gauss, Victoria Meo et Giuseppa, qui ont fait des stories à rallonge pour les raconter. Les trois se sont justifiées en disant s'être senties obligées d'en parler car elles sont très suivies et que leur communauté veut comprendre pourquoi on ne les voit plus avec leur partenaire. Une excuse qui peut être compréhensible même si elles savent très bien que ça va créer le buzz. Victoria Meo a par exemple dit qu'elle n'avait jamais eu autant de vues sur une story que sur celle où elle parle de sa rupture. Et puis, on a aussi vu la youtubeuse Romy qui a choisi d'exposer sa séparation sur sa chaîne cet été. Sa vidéo cumule quasiment 700 000 vues et c'est le plus gros carton de sa chaîne depuis des années. Pareil pour la créatrice de contenu Emma Paris qui a raconté sa rupture rocambolesque en vidéo avec son ex-compagne qui l'a trompée en prison avec une jeune femme radicalisée et c'est une vraie histoire. Elle a passionné les foules cet été sur TikTok. Le hashtag Emma Paris est toujours en tendance avec des centaines de vidéos qui débriefent cette histoire. Ce que ça nous dit, c'est qu'aujourd'hui, plus on en raconte, mieux c'est. Les réseaux nous ont transformés en voyeurs à l'affût du moindre détail, du moindre gossip. Les relations amoureuses sont au cœur des tendances. Même Taylor Swift a fait des ruptures son fonds de commerce avec ses albums sur ses ex. Alors là, ça devrait changer puisqu'elle va se marier. Mais ne vous inquiétez pas, les mariages feront prochainement l'objet d'une autre de mes chroniques au vitriol.
Et on a déjà hâte, Manon, de cette chronique au vitriol. Merci Manon. Et pour conclure en majesté cette émission où on a voyagé de Kaboul à Dijon, le revoilà, Swisser than ever. Bonjour Yann Marguet.
Bonjour Mathieu.
Yann, pour une star de votre stature, j'imagine que quand on vous parle photo, vous pensez surtout aux paparazzi qui vous traquent partout dans le monde. Du coup, est-ce que vous allez réussir à nous parler de cette profession sans trop de haine ?
Écoutez, mon cœur est une zone de combat et je les y accueille volontiers.
Tu as l'air en forme. La chronique de Yann Marguet, c'est dans Zoom Zen juste après Miles Kane. Love is cruel sur Inter. She's a midnight scooter rider. I don't want you passing by. Right down beside her, but it might not be our time. Can we fly by now, provider? Be the exception to the rule. We'll be right back.
Noël sur France Inter.
Lui aurait plutôt tendance à éviter les pays qui finissent en stan pour privilégier ceux qui se terminent en Tas-Unis, pont ou encore Glotaire. Autant dire que malgré le chapeau, on ne part pas sur de l'aventurier. Voici Anne Marguet.
Bonjour Mathieu, sujet très sympa pour commencer ma saison. Les photoreporters en zone de guerre. Je vois que résolution a été prise pendant l'été de continuer à confondre l'exercice de la chronique humour avec celui de la magie en close-up. Est-ce un mort? Est-ce glauque? Est-ce hyper triste? Eh non, c'est une blague. Eh bien, jokes on you, motherfucker. Car vous n'imaginez pas la facilité que j'ai eu à écrire ce papier, tant le nombre de points communs entre Sandra Calgaro, notre invitée, et moi est hallucinant. Non, Sandra, oui. On est les mêmes. Vous avez découvert l'Afghanistan en 2007, vous y avez vécu et continuez d'y retourner régulièrement. Je découvre New York en 2010, qui reste 6 mois, et m'y rend souvent pour m'acheter des objets. Même histoire. Vous faites des reportages avec Terre des Hommes, des expos avec Action contre la faim, des projets avec d'autres ONG. Moi, hasard ou coïncidence, je donne 40 euros par mois pour le Soudan. À Kaboul, vous apprenez la langue locale, le Dari. Je parle le Dari. Je sais dire « un petit gadaïou ». Attendez, pendant vos études, il y a 20 ans, vous travaillez au restaurant La Caravane dans le 10e. J'y suis allé en 2023. J'ai pris le burger. Non, mais si vous ajoutez à tout ça qu'en plus, j'ai vu le film avec Kate Winslet ou les reporters de guerre, je ne sais plus comment ça s'appelle, voyez à quel point je m'identifie à vous.
Bon,
après, moi, j'aurais jamais pu annoncer à ma mère que je voulais être reporter de guerre, déjà parce que je ne voulais pas. Et puis, quand à 15 ans, je lui ai dit bassiste, elle était déjà inquiète. Donc, j'imagine même pas si j'ai ce qu'est ma vie. Après, bon, vous, Sandra, vous êtes bien démerdé pour éviter le danger. Hein. Je cite votre bio, elle photographie des scènes du quotidien à contre-courant du prisme médiatique sensationnaliste habituel. Ouais. Je vois comment ça se traduit. Hein. Hé hey Sandra, viens vite, c'est en train de péter à Kandahar. Oui, partez devant, je crois que j'ai aussi entendu des tirs du côté de cette magnifique corbeille de fruits. Vous vous chiez dessus, ouais. Je le pense pas, Sandra. Je dois faire des blagues sur des héros qui couvrent des pays en souffrance. Il faut bien que je trouve des merdes à dire. C'est poignant, votre métier. Vous avez tout vécu en Afghanistan, les talibans, plus les talibans, de nouveau les talibans, le mince espoir qu'il y a eu entre les talibans, de nouveau les talibans, avant que les ricains se retirent et laissent notamment les femmes à leur sort du jour au lendemain. Parce que putain, le retrait de l'Occident, c'était vraiment Nagui qui finit une émission. Merci d'avoir été avec nous. On espère que vous avez passé un super moment. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.
On embrasse
les reporters, vous êtes les premiers sur le terrain, vous êtes aussi les derniers à rester après tout le monde. Des fois, même, vous restez trop longtemps. Je pense notamment à quand vous avez fait tellement de sujets que vous allez de plus en plus profond dans ce que j'appelle l'entonnoir du glauque. Alors, la guerre, j'ai fait. Les enfants de la guerre, j'ai fait. Ah, bah, je vais proposer les enfants trans et héroïnomanes de la guerre. Non, mais c'est bon, là. Mais laissez-nous bruncher tranquille, merde. Vous voulez quoi, nous rendre mal? Être le dernier rempart entre nous et le déni? Eh ben, bravo, c'est réussi, Sandra. C'est réussi, Sandra. Je le pense vraiment, c'est juste dur de changer de ton si rapidement. Surtout que vu l'état du monde, c'est de moins en moins facile. Jadis, vous étiez les stars des magazines et aujourd'hui, on a l'impression qu'en séance de rédaction, on entend plutôt des trucs du genre « Alors, on a un lecteur qui nous a envoyé la photo d'un nuage en forme de Pierre Garnier. On pensait en faire la une, c'est tordant, non ?» Merci donc, même dans l'adversité, avec une pile de conflits et de catastrophes qui ne fait que grandir sur vos bureaux, de rester les messagers d'un monde qui ne veut rien savoir. Au milieu des photos de pumpkin spice latte, des fake news et des « Pauvre quand ton ex te croise avec ta nouvelle meuf ben, !» Vous êtes les seuls influenceurs et influenceuses dont on a vraiment besoin.
Merci Yann Marguet, à la semaine prochaine dans Zoom Zoom. À la réalisation, c'était Alicia Vullo. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour parler de dysmorphie financière, quand, à cause notamment des réseaux sociaux, on a toujours l'impression d'être fauché. Et pour certains, c'est pas qu'une impression.
Zoom Zoom Zen.